Comme l'a dit le poète, pourquoi la vérité est-elle toujours sur l'échafaud et le mal toujours sur le trône? Cet aspect des expériences humaines ne changera-t-il jamais? N'y aura-t-il jamais un triomphe de la justice? Voici les questions que nous considérons dans la suite de notre série d'études de la Bible, le livre des livres. Dans cette discussion, nous passerons en revue le livre de Malachie, le dernier des livres de l'Ancien Testament. Ces programmes d'études de la Bible vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore.
Merci Thomas. Comme tu l'as dit, le livre de Malachie est le dernier de l'Ancien Testament, et il fut écrit après le retour des Juifs de leur captivité à Babylone. C'est l'un des livres prophétiques de l'Ancien Testament, et comme les autres, il a pour but de rappeler à ses contemporains combien leur culte pour Dieu était tiède et souvent hypocrite. Malachie explique aux Israélites qu'à cause de leur manque de foi, Dieu leur refuse ses bénédictions. Cette pensée est magnifiquement développée au chapitre 3, versets 8 à 10. Thomas, peut-être voudrais-tu lire ces versets pour nous?
Oui, Pierre, certainement. Malachie écrit « L'homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous la nation entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pierre, que veut dire le Seigneur quand il parle d'apporter toutes les dîmes dans sa maison?
Il fait allusion au système des dîmes que le Seigneur institua pour la nation d'Israël, arrangement par lequel le peuple devait fournir un dixième de son revenu afin de pourvoir aux services religieux de la nation. On attendait de personne plus que cela, mais il n'en fallait pas moins pour plaire entièrement au Seigneur.
Cet arrangement lie-t-il encore les disciples de Jésus de nos jours?
Cela n'est pas précisé dans le Nouveau Testament. Cependant, dans le texte que tu as lu, le Seigneur établit un principe qui s'applique aux gens de n'importe quel temps, c'est-à-dire que les bénédictions de paix et de joie qu'ils reçoivent de Dieu sont en proportion directe avec leur fidélité envers lui.
Mais Pierre, les chrétiens ne vouent-ils pas leur tout au Seigneur?
Oui, mais si en pensée, en parole ou en action, le chrétien manquait de tout donner à Dieu, il n'apporterait pas toutes les dîmes à sa maison.
Je remarque qu'au premier verset du chapitre 3 de la prophétie de Malachie, il est fait allusion à la venue de celui qui s'appelle l'ange de l'Alliance. Est-ce une autre promesse du Messie qui vient?
Oui, Thomas, c'est cela.
Pourquoi le Messie est-il appelé l'ange de l'Alliance?
Dans les prophéties de l'Ancien Testament, il est fait mention d'une alliance que le Seigneur avait faite avec son peuple.
Je m'en souviens. Le prophète Jérémie fait allusion à une nouvelle alliance que le Seigneur établirait, une alliance par laquelle il écrirait sa loi dans le cœur des hommes, et le résultat serait que la connaissance de l'Éternel deviendrait si universelle sur la terre que tous le connaîtraient, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.
C'est juste. Et cette merveilleuse promesse de la nouvelle alliance est mentionné au chapitre 31 de la prophétie de Jérémie.
L'ange de l'Alliance serait alors celui que Dieu enverrait pour établir des relations par alliance entre lui et les hommes.
Oui, c'est cela. C'est encore un autre titre du Messie, destiné comme les autres à nous aider à comprendre plus complètement les divers aspects de son œuvre en faveur d'une race mourante et maudite par le péché.
Et comme je le comprends, Pierre, c'est une autre façon de la Bible d'appuyer sur le fait que lorsque le plan de Dieu sera entièrement réalisé, toute la race humaine sera de nouveau en harmonie avec Dieu. Elle aimera alors les justes lois de Dieu et leur obéira.
Ce qui veut dire qu'alors, il y aura vraiment de la bonne volonté entre les hommes.
Mais ceci, Pierre, est bien différent de la description de l'expérience humaine que le prophète Malachie nous donne au chapitre 3, verset 15. Voici le texte. Nous tenons maintenant pour heureux les orgueilleux, ceux qui commettent la méchanceté, prospèrent, ou ils tentent Dieu et ils échappent. Cette situation ne changera-t-elle jamais? Y aura-t-il jamais le triomphe de la justice sur la terre?
Oui, Thomas, c'est le climax glorieux du plan divin qui est prédit au dernier chapitre de la prophétie de Malachie. Voudrais-tu lire le premier verset?
Certainement. Il dit, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume. Et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine, ni rameau. Tu sais, Pierre, ce sont des paroles sévères. Elles montrent certainement que les méchants ne prospéreront pas toujours.
C'est vrai, tant que la prophétie s'adresse aux individus plutôt que simplement aux institutions mauvaises. Car il faut se souvenir que, selon la Bible, le Seigneur ne détruira pas le pécheur, qui d'abord n'aura pas eu l'occasion de se repentir et d'avoir le sincère désir de le servir.
Oui, je me souviens, dans notre examen des livres précédents de l'Ancien Testament, nous avons trouvé nombre d'assurances de Dieu promettant d'éclairer les peuples par la connaissance de sa volonté, avant de les tenir entièrement responsables du mal qu'ils feraient. N'est-ce pas le prophète Ésaïe qui écrivait que lorsque les jugements du Seigneur paraîtraient sur la terre, les habitants du monde apprendraient la justice?
Oui, et le prophète Sophonie écrivit que le Seigneur, au temps du royaume de Christ, donnera au peuple des lèvres pures, une langue et un message pur, afin que tous puissent invoquer le nom du Seigneur et le servir d'un même cœur.
Eh bien, dans ces circonstances, personne n'aura l'excuse de n'avoir pas connu la voie de la justice. Et Pierre, je remarque que le deuxième verset de ce dernier chapitre de la prophétie de Malachie semble indiquer la même chose. Il dit, « Le soleil de la justice se lèvera et la santé sera dans ses rayons. »
Le soleil qui se lève suggère certainement une lumière pour le monde entier, ce qui est en contraste avec la description qu'Ésaïe fait du temps présent, où il dit, « Les ténèbres couvrent la terre et les gens sont plongés dans une obscurité profonde. »
Pierre, quel est exactement ce soleil de la justice promis?
C'est une autre promesse messianique. Le soleil de justice est en réalité le Messie. C'est tout simplement un autre titre qui lui est donné. Jésus est la lumière du monde, et en considérant ses efforts pour éclairer les hommes, leur faire connaître Dieu et sa justice, Malachie l'appelle le soleil de justice.
Mais Pierre, dans cette prophétie, il est cité autre chose que la lumière. Elle dit le soleil de justice. Apporte la santé dans ses rayons.
C'est vrai. Et quelle belle illustration. Quand le monde sera éclairé par la lumière de la vérité et lui obéira, il y aura la guérison de tous les maux qui ont frappé la race humaine. Conséquence de la transgression de la loi divine par nos premiers parents, Adam et Ève.
Cela me rappelle la merveilleuse promesse de Dieu donnée dans le psaume 30, verset 6, qui déclare que le soir arrivent les pleurs et le matin c'est un chant de joie. Naturellement, il s'agit du lever du soleil de justice qui apporte à la terre un nouveau jour de bénédiction pour tous les hommes.
Et Thomas, la nuit sombre du péché de la mort sur la terre commença par la chute de l'homme au jardin d'Éden. Et c'est merveilleux de se rendre compte que le Messie promis au temps de son royaume dispersera l'obscurité. Et alors il y aura un glorieux triomphe de la justice. C'est ce fait rassurant que nous avons trouvé maintes fois répété dans tous les livres de l'Ancien Testament. Et nous le retrouvons dans le dernier de ces livres. Il est éloquemment exprimé dans cette promesse qui compare le Messie à venir au soleil levant, avec sa guérison dans ses rayons.
Pierre, de quelle étendue seront les bénédictions vivifiantes du royaume messianique?
Jusqu'où s'étendent les avantages du soleil dans la nature?
Au monde entier, naturellement, et je sais que la promesse est que le Christ régnera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Mais en posant ma question, je songeais à la nature des bénédictions qui découleront du royaume du Messie. Est-ce que tous les maux qui affligent maintenant l'humanité seront détruits par les rayons pénétrants et guérisseurs du soleil de justice?
Oui, les promesses de Dieu nous assurent que les bénédictions seront aussi vastes et générales que la malédiction qui s'est abattue sur la race humaine en conséquence du péché originel. La promesse de Dieu à Abraham le montre. Cette promesse était « Que par ta postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. » Et comme tu le sais, en suivant le fil de cette promesse, comme il est développé dans les différentes prophéties, nous avons trouvé ce que sont ces bénédictions, une paix universelle et durable, la santé et la vie éternelle.
Oui, et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. L'égoïsme est naturellement l'un des plus grands maux dont souffre l'humanité. Et je me souviens que par le prophète Jérémie, le Seigneur nous a assuré que même le mal serait détruit à sa base, que le Seigneur écrirait sa loi d'amour dans le cœur de son peuple.
C'est vrai, Thomas. La loi d'amour sera écrite dans le cœur des hommes, en relation avec l'établissement de la nouvelle alliance qui leur est promise. Et comme nous l'avons vu, Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, nous informe que le Messie sera le messager de cette alliance. C'est ainsi que l'Ancien Testament nous parle à la fois de la chute de l'homme et de sa régénération, nous assurant qu'au moment choisi par Dieu, tout le mal, même la mort, seront détruits. Ce sera le triomphe glorieux de la justice. Thomas, tu as dit, je crois, que tu avais une communication spéciale à faire.
Oui, en effet. Cela se rapporte à l'article « La prophétie de notre temps », le quatrième de la série publiée dans la revue Aurore. Amis, c'est la dernière fois que la prophétie de notre temps est offerte. Demandez un exemplaire gratuit. Cet article affirme la foi. Passe en revue les 6 derniers livres de l'Ancien Testament, appelant votre attention sur les nombreuses prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui. Nos moyens modernes de voyage, les nations rassemblées pour la paix et la guerre, la désintégration des empires et d'autres bastions de ce monde d'avant 1914, le retour du peuple juif dans la terre promise et divers autres développements sont prédits dans les 6 derniers livres de l'Ancien Testament. Et ces prophéties sont discutées dans l'article « La prophétie de notre temps ». Ces prophéties nous assurent aussi le triomphe ultime de la justice, la destruction du péché et de la mort et la résurrection des morts. Non, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Lisez « Notre jour » dans la prophétie et vous en serez persuadé. Demandez un exemplaire gratuit. Demandez l'article « Prophétie », le seul mot « prophétie » suffira. Il vous sera envoyé gratuitement et franco de port, sans obligation de votre part. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore. Nous serons avec vous la semaine prochaine. Dites-le à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.